Vous êtes sur RTL. Vincent Parisot,
RTL Midi.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue RTL Midi, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Toute l'actualité de ce samedi 27 août, dernier week-end du mois, dernier week-end avant la fin des vacances et la rentrée des classes. On vous accompagne sur la route des retours. C'est d'ailleurs un week-end rouge, hein, François-Xavier Lambert.
Et oui, évidemment, des dizaines de kilomètres de bouchons dans la vallée du Rhône. Sans surprise, le trafic est très fortement perturbé sur l'A7 en direction de Lyon. Il va vous falloir également beaucoup de patience sur l'A10 entre Bordeaux et Paris ou encore sur l'A8 entre Genève et Aix-en-Provence.
Merci François-Xavier. On vous retrouve pour un point complet sur ces difficultés. Dans un instant. Jour de départ notamment dans les campings. Après une année record, 130 millions de nuitées annoncées pour l'année 2022 grâce notamment au retour des vacances étrangers. On ira d'ailleurs dans un camping de Saint-Brévin-l'Océan retrouver Mathieu Lopineau à l'heure de faire les bagages et de plier la tente. Dans l'actualité de ce samedi, il y a tout d'abord ce message particulièrement inquiétant qui vient d'être lancé par l'opérateur de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. C'était il y a quelques minutes cette alerte centrale, vous savez, qui a pu être rebranchée hier sur le réseau électrique après une coupure totale liée au combat de ces derniers jours et au bombardement. L'opérateur de la centrale parle d'un risque de pulvérisation de substances radioactives. Évidemment, on suit le dossier de très près et on vous en dit plus dès que possible. L'actualité, c'est cette chasse à l'homme qui continue dans la Creuse. Les gendarmes sont aux trousses d'un Britannique de 51 ans qui a blessé deux dealers jeudi dernier lors d'un contrôle. Le fuyard n'est pas un inconnu, c'est un escroc notoire outre-Manche. À Biarritz, les urgences d'une clinique fermée et les employés sous le choc après l'agression d'un infirmier par deux cadres du club de rugby de l'Aveyron Bayonnais. Ils avaient été placé sous contrôle judiciaire. L'un d'eux s'est excusé platement sur les réseaux sociaux. Le canard enchaîné dans la tourmente. Le journal satirique est visé par une plainte. La compagne d'un des dessinateurs historiques du journal aurait en effet bénéficié d'un emploi fictif pendant 20 ans. Une rentrée sans Covid, mais pas sans inquiétude du côté des soignants. Les chiffres de vaccination pour la deuxième dose de rappel aux personnes âgées ne sont pas bons. Moins de la moitié du public éligible a en effet reçu cette dose. La sécheresse et ses conséquences, parfois dramatiques pour certains agriculteurs. Le département du Tarn est en alerte sécheresse dans le secteur de l'Autrec. La crise est particulièrement sérieuse. Il n'a pas plu là-bas depuis début avril. Les producteurs d'aïrose ont perdu plus de la moitié de la récolte. Emmanuel Macron en Algérie. Le président achève sa visite avec des artistes et des sportifs à haut rang. Avant son retour en France, il repassera par Alger tout à l'heure pour la signature d'un partenariat qualifié par Paris de concret et ambitieux. Le football avec la quatrième journée de Ligue 1, Auxerre-Strasbourg cet après-midi à 17h et ce soir Lens-Rennes. Avant 13h, on passera à table grâce à Pierre Herbulot et sa recette estivale. Un tartare de thon détonnant aujourd'hui, vous verrez. Mais avant cela, prenons le soleil, Claire Delorme, bonjour.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Car ce soleil, on peut dire qu'il accompagne le retour des vacanciers.
Exactement, de très belles éclaircies vont se développer cet après-midi sur l'ensemble des régions, malgré quelques passages nuageux qui seront pour la plupart inoffensifs. Tout de même à prévoir quelques averses locales sur tout le flanc est, donc de la région Grand Est en descendant vers la région PACA, accompagnées par moments d'un coup de tonnerre. Partout ailleurs, c'est franchement très ensoleillé et des températures comprises entre 25 et 29 degrés.
Merci Claire, on vous retrouve à 13h.
Vincent Parisot,
RTL Midi.
Ce week-end est donc le dernier du mois d'août et donc le dernier avant la rentrée des classes de jeudi. Il y a du monde sur les routes, on l'a compris, traditionnellement d'ailleurs à la mi-journée, François-Xavier Lambert. C'est le moment des grands bouchons, ça se confirme?
Et oui, absolument, à commencer par l'A7, près de 80 km d'embouteillage dans le sens Marseille-Lyon. Cela se passe précisément entre Orange et Loriol-sur-Drôme. Et c'est aussi très bouché à l'approche de Lyon. Prévoyez de gros ralentissements si vous vous trouvez sur l'A6, l'A46 ou l'A7N. Conséquence, vous mettez plus de temps de parcours. Il faut compter 2h30 au lieu d'1h30. Toujours dans le sud, sur l'A8 maintenant, vous rencontrez un embouteillage sur près de 12 km entre Genève et Aix-en-Provence à partir de Châteauneuf-le-Rouge. Et puis dans le sud-ouest, sur l'A9, d'abord entre Barcelone et Avignon, vous êtes ralenti sur plus de 9 km dans le secteur de Le Boulou, tout près de la frontière espagnole. En remontant vers le nord, autre grand axe particulièrement encombré, l'A10 depuis Bordeaux, 18 km de bouchons en direction de Paris dans le secteur de Ferrioux, et c'est particulièrement compliqué à l'approche de Niort et de Poitiers. Pour vous donner une idée sur l'ensemble du réseau, Bison Futé recense près de 530 km de bouchons cumulés.
Merci François. François-Xavier Lambert, ne partez pas trop loin puisque vous intervenez régulièrement au RTL. Vous aide à mieux circuler tout au long de cette journée. Des vacanciers sur la route du retour ou pour certains en train de plier bagages. Nous serons dans un instant dans un camping de Saint-Brévin en Loire-Atlantique. Mais cette fin de vacances est aussi l'occasion de dresser le bilan touristique de l'été en France. Notamment donc pour les campings qui ont bénéficié bien sûr de la météo exceptionnelle mais aussi du retour des touristes étrangers, notamment britanniques, après deux années marquées par le Covid et par le Brexit. 2022 donc devrait être une meilleure année encore que 2019, année record. La Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air mise sur 130 millions de nuitées pour 2022 et son président Nicolas Daillaud était l'invité d'RTL ce matin. Il a dressé le tableau du camping d'aujourd'hui qui accueille aussi bien des vacanciers sous la tente qu'en caravane, en mobil-home ou en chalet, un cocktail gagnant, explique-t-il.
Ce qui est formidable finalement dans notre évolution, c'est qu'on a gardé toute notre clientèle historique et on a réussi à conquérir une nouvelle clientèle qui a pris goût au camping. La tente n'est absolument pas has-been, le camping-car et le van cartonnent. La caravane, alors surtout auprès des étrangers, les Français pratiquement la caravane maintenant que dans les années 70. Mmh. Et puis évidemment les hébergements locatifs, les mobil-homes, les chalets, les roulottes. Et ce mix permet au camping de beaucoup évoluer. Le mobil-home et le chalet a permis au camping de développer le chiffre d'affaires, donc d'investir dans des équipements et des services qu'on n'aurait jamais pu se payer si on avait gardé que les tentes et les caravanes. Et ces équipements et ces services permettent aux gens qui ont des moyens plus modestes de partir en vacances dans des campings qui proposent des services très attractifs.
Voilà, Nicolas Daillaud, le président de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air. Il était ce matin sur RTL avec Stéphane Carpentier. Alors, sous la tente, dans la caravane ou dans le mobil-home, pour de nombreux vacanciers des campings, c'est donc le champ du départ, l'heure de plier bagages, car les meilleurs moments ont une fin. Même à Saint-Brévin, l'Océan, Loire-Atlantique, où vous êtes depuis ce matin, Mathieu Lopineau.
Oui, Laurence, Patrick et leurs trois filles se sont levées tôt ce matin. Pour ces Parisiens, les vacances sont belles et bien terminées.
Réveil 6h, fallait ranger tout le mobilo, faire les dernières valises et voilà.
C'est la fin des vacances.
Oui.
Est-ce que c'est triste?
Un peu. Bah, on était bien en camping, donc ça va faire bizarre de reprendre les habitudes scolaires.
Bon, je vois un petit peu de désespoir dans tes yeux.
Un peu. Mais après, on est aussi contents parce que du coup, on va retrouver nos amis.
C'était bien comment? C'est quoi le meilleur souvenir?
L'ambiance générale, la fiesta boum boum qu'on a beaucoup faite. Et... non, c'était top.
Bon, maintenant, c'est l'heure du retour.
Oui, oui, malheureusement.
Moi, je travaille dès lundi en crèche. Et voilà, on va retrouver les collègues, les bébés, les... voilà.
Bon, bah, bonne route.
Merci.
Alors, à l'accueil de ce camping, on retrouve Rachel qui s'occupe des arrivées et des départs. C'est donc un gros samedi aujourd'hui. Hein.
Oui, gros samedi, nous attendons beaucoup d'arrivées. Et bah, là, ce matin, ton client repart tranquillement. Et puis, bah, nous, ensuite, on va dans les mobil-homes, désinfection, ménage. Et puis, on les reprépare pour nos clients qui vont arriver pour 15h.
Ah oui, donc, il ne faut pas chômer.
À partir de 15h. Non, il ne faut pas chômer.
Ouais. Le poste clé dans ce camping, c'est l'animateur Fares qui est responsable des animations. Est très satisfait de sa saison.
Les animations ont bien marché, que les gens ressortent avec le sourire, les gens oublient tout le quotidien qu'ils ont toute l'année. Même si c'est sur une heure d'animation, bah, si on arrive à faire ça, c'est réussi.
Ce job de rêve, c'est quoi en fait?
Travailler sans se rendre compte qu'on travaille, c'est le Graal pour chaque employé, je pense. C'est vrai qu'on est payé pour faire de la pétanque, du water polo, des spectacles, des jeux apéro, du foot, du badminton. Et c'est vrai que c'est super agréable.
Et c'est l'agitation également dans le mobil-home de ces trois sœurs parisiennes qui viennent donc de passer une semaine de vacances ici sur la côte. Les valises sont prêtes et le balai est sorti.
C'est ça, là, c'est les finitions. On repasse un petit coup parce qu'il y a du sable qui vole. Puis après, bah, ça y est, on est parti. Les clés, on rend les clés et on retourne au travail. Il faut bien.
On retourne au travail, dit-elle, avec une petite moue quand même.
C'est ça.
Ah, faut bien.
C'était quoi votre meilleur souvenir dans le coin?
Ah, je crois que moi, c'était hier le karaoké quand même. J'ai kiffé.
Bon, bah, bon retour.
Merci, bah, merci beaucoup.
Ouais, vous l'avez compris, c'est donc la fin des vacances avec plein de souvenirs dans la tête.
Et merci beaucoup et souvent un petit peu de sable dans les chaussures. Merci Mathieu Lopineau. Bon retour de Saint-Brévin et puis à vous tous qui êtes en voiture. Certains, on l'a compris, dans les bouchons. Passez une bonne journée sur la route. Soyez prudents, soyez patients. RTL vous accompagne. Il est 12h39. On va marquer une courte pause. Et puis, dans un instant, relayez, vous donnez les informations dont nous disposons, informations encore parcellaires après cette alerte lancée par l'opérateur de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijja, puisqu'il parle de risque de pulvérisation de substances radioactives. A tout de suite.
RTL Midi.
Vincent Parisot,
RTL Midi.
On revient donc sur cette information que je vous donnais, dès le début des titres, cette alerte particulièrement inquiétante qui a été lancée il y a quelques minutes par l'opérateur de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, au cœur de toutes les inquiétudes, de toutes les angoisses depuis plusieurs jours. Qu'est-ce que l'on sait à l'heure qu'il est, Aurélia Valarié?
Alors, c'est l'opérateur public ukrainien Energoatom qui a annoncé que les Russes ont bombardé à plusieurs reprises la centrale de Zaporijjia au cours, je cite, de la dernière journée. Alors, est-ce qu'il s'agit d'hier ou d'aujourd'hui? On n'a pas encore l'information pour l'instant. Il y a donc toujours, selon l'opérateur, un risque élevé de pulvérisation de substances radioactives. Il semblerait que la structure de la centrale ait été lourdement endommagée. Les autorités ukrainiennes qui mettent aussi en garde contre de forts risques d'incendie aujourd'hui.
Alors évidemment, on va vous tenir informés au fur et à mesure des informations qui vont nous parvenir. Pour l'instant, nous avons une source. Cette source, c'est l'opérateur public ukrainien. Et attention, il ne parle pas de pulvérisation, mais de risque de pulvérisation. Et évidemment, on vous tiendra informé si nous avons de nouvelles informations. Merci Aurélia Valarié. Dans la Creuse, une chasse à l'homme est engagée pour tenter de retrouver un fugitif au profil pour le moins troublant. Un homme qui a même fait l'objet d'un documentaire sur Netflix. Faux espion, véritable escroc, condamné, qui était sorti de prison, qui a blessé deux gendarmes en prenant la fuite avant-hier lors d'un banal contrôle de son élevage canin. Un élevage d'une trentaine de chiens en cage, visé par plusieurs signalements de la municipalité de Vidaïa, un petit village au sud de Guéret. Et d'ailleurs, vous allez l'entendre, la maire de Vidaïa n'est pas vraiment surprise de ce qui s'est passé.
On a commencé à s'inquiéter un petit peu il y a déjà quelques années. Les voisins, eux, s'inquiètent depuis 2017-2018, d'abord parce que les chiens vivaient dans la maison, dans des cages, ils s'en rendaient bien compte. Madame ne bougeait jamais de chez elle, ne sortait jamais. Elle, elle n'avait qu'une chose à faire, c'était s'occuper des chiens et ne pas bouger de chez elle, quoi. J'ai essayé plusieurs fois d'aller la voir. Elle refusait tout contact. On était devant la barrière fermée à double tour et dès qu'on approchait, elle nous tendait le téléphone qui était en ligne directe avec monsieur qui, lui, était je ne sais où. À partir de 2019, j'ai commencé donc à voir la gendarmerie, à chercher au niveau de la DDCSPP pour les chiens, avertir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je ne suis pas du tout étonnée que ça termine comme ça, hein.
Voilà, Martine Laporte, pas du tout étonnée, la maire du village de Vidaïa dans la Creuse avec Arthur Pereira. Une cinquantaine de gendarmes ainsi que des agents de la police aux frontières sont mobilisés pour tenter de retrouver le fuyard. À Biarritz, le service des urgences de la clinique Aguilera a été fermé hier. L'activité reprend peu à peu, mais le personnel est toujours sous le choc de la scène qui s'est déroulée mardi, puisque deux hommes qui s'étaient refusés un droit de visite à un de leurs amis ont agressé et frappé violemment un infirmier. Vous avez d'ailleurs entendu sans doute ce matin le témoignage de deux aides-soignantes particulièrement choquées. Ces agresseurs ne sont pas des inconnus. Il s'agit d'un ancien cadre et de l'un des entraîneurs du club de rugby de l'Aveyron bayonnais. Celui qui est entraîneur s'est d'ailleurs platement excusé sur les réseaux sociaux. Ils sont placés sous contrôle judiciaire. Ils seront jugés dans les trois mois. Pour le Canard enchaîné, ça c'est un sacré pan sur le bec. L'hebdomadaire satirique se retrouve en effet visé par une plainte qui devrait beaucoup faire parler. Le journal est soupçonné d'avoir rémunéré pendant 20 ans, la femme d'un de ses dessinateurs, Guillaume Chiez.
Oui, et c'est un des journalistes de la rédaction du Canard enchaîné qui a soulevé le lièvre l'an dernier, Christophe Nobili, qui avait entre autres travaillé sur les emplois fictifs du couple Fillon, s'aperçoit que le Canard emploie une journaliste qu'il n'a jamais croisée. Il s'agit de la compagne d'un des caricaturistes historiques du journal. Il demande des explications à sa hiérarchie, peu convaincante selon lui, d'où cette plainte déposée en mai dernier. Depuis, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour abus de biens sociaux. Il faut dire que le préjudice estimé est conséquent. L'ensemble des salaires versés à la compagne du dessinateur sur une période d'une vingtaine d'années constitue un préjudice estimé à 3 millions d'euros. Aujourd'hui, cette femme n'est plus rémunérée par le Canard. Interrogé par Le Monde qui a révélé l'affaire hier, le directeur général délégué du Canard enchaîné, Nicolas Brimaud, se défend. Il explique n'avoir jamais été convoqué ni entendu par les enquêteurs au sujet de cette plainte dont il dit ne connaître ni la date ni l'objet.
Guillaume Chiez. La sécheresse historique qui a frappé et continue continue de frapper la France aura des conséquences désastreuses pour l'agriculture, c'est certain. Ainsi, la récolte de pommes de terre, d'ores et déjà, s'annonce catastrophique. Selon les producteurs, ils s'attendent à une baisse de plus de 20% par rapport à la moyenne des 20 dernières années. Ils demandent d'ailleurs une réunion d'urgence au ministre de l'Agriculture en annonçant d'ores et déjà une hausse des prix des pommes de terre, hausse qu'ils souhaitent voir répartie entre les distributeurs et les consommateurs. Dans le département du Tarn, là, la situation est particulièrement critique. L'ensemble du département est en alerte sécheresse niveau 2, mais dans le secteur de Lautrec, cette alerte est au niveau maximum, le niveau 4, le niveau de crise. Lautrec, où l'on produit de l'ail rose et où il n'a quasiment pas plu depuis début avril. Résultat, eh bien, la moitié de la récolte est perdue. Patrick Hisson.
Eh bien, à Lautrec, les producteurs le disent très clairement, ils n'avaient jamais connu une sécheresse d'une telle ampleur. Sébastien Marty est l'un d'entre eux. Il a perdu au moins 2 tonnes d'ail cette année.
Ça fait assez mal. C'est 40 à 60% selon les producteurs. Et dans le pourcentage qui reste, c'est encore un tiers derrière de l'ail déformé, trop petit, qui sera très difficile à commercialiser. Là, il n'a pas besoin d'énormément d'eau, mais il y a 2 mois, au mois d'avril, au mois de mai, qui sont stratégiques. Et là, il lui faut quand même de bons arrosages durant les mois.
Or, durant ces 2 mois, il n'a quasiment pas plu cette année. Avec donc ses conséquences dramatiques pour les producteurs, d'où cette réflexion posée par Jean-François Levrat, technicien au syndicat de l'ail rose de Lautrec.
La première réflexion qui vient en tête des producteurs, c'est l'accès à l'eau, puisque tous n'ont pas l'irrigation à disposition et avec des possibilités de faire des petites réserves, puisque l'ail est une culture qui demande peu d'eau, et avec des petites réserves, on pourrait sauver beaucoup de choses.
En attendant, le syndicat de l'ail rose de Lautrec s'apprête à déposer un dossier calamité sécheresse dans l'espoir d'être aidé en cette année catastrophique.
Un reportage signé Patrick Hisson, week-end de rentrée pour tout le monde, y compris pour les politiques. Du côté de LR, chacun prend ses marques pour la présidence du parti avec la perspective de 2027. Vous le savez, avant-hier, Éric Ciotti, candidat déclaré pour la présidence de LR, a apporté son soutien à Laurent Wauquiez pour la prochaine présidentielle. Eh bien, celle qui va sans doute l'affronter, l'ancienne numéro 2 des Républicains, Virginie Calmels, revenante et candidate, donc surprise pour la tête du mouvement, estime de son côté qu'il est très prématuré aujourd'hui de désigner le candidat des LR pour cette présidentielle. Rentrer également du côté de la France insoumise avec les universités d'été dans la Drôme et Jean-Luc Mélenchon a ses remontées hier, il promet une bataille générale à l'Assemblée et il estime que le compte à rebours de la dissolution de l'Assemblée est désormais enclenché. La rentrée politique, elle va se faire sur RTL aussi demain à la mi-journée avec le retour du grand jury RTL, Le Figaro et LCI. L'invité sera Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics et puis rendez-vous également pour toute l'actualité politique demain soir à 18h30 dans le MacPol. Emmanuel Macron lui achèvera ce soir sa visite de 3 jours en Algérie. Il va d'ailleurs repasser par la capitale. Un dernier crochet qui n'était pas prévu au départ, qui sera l'occasion de signer une déclaration commune pour un partenariat renouvelé. En attendant, eh bien, le chef de l'État s'est offert ce matin une petite parenthèse musicale et sportive. Vous l'accompagnez, Marie-Bénédicte Allaire.
Bah écoute, de toute façon, cette étape à Oran a pris un petit peu les services de sécurité au dépourvu. Emmanuel Macron avait une visite prévue dans un endroit mythique, Disco Maghreb, le fameux producteur de rail maintenant connu dans le monde entier parce que DJ Snake y a tourné un clip. Et puis, en fait, tout le quartier était bouclé, hein, donc il ne pouvait pas voir la population. Et en sortant de Disco Maghreb, il a fait quelques centaines de mètres en voiture et puis il est descendu dans une petite rue. Et là, il s'est fait un petit bain de foule qui n'a pas duré très longtemps, mais qui a mis en émoi les services de sécurité. Par contre, la population, elle est contente et on a entendu crier « 1, 2, 3, vive à l'Algérie, vive à la France !» Voilà, donc Emmanuel Macron a quand même quelques belles images au milieu de la foule pour terminer cette visite.
Voilà, avec de l'ambiance, on l'a compris, à vos côtés, Marie-Bénédicte Allaire, envoyée spéciale d'RTL en Algérie pour la visite d'Emmanuel Macron. Puis je vous rappelle d'ailleurs que le président a lancé hier l'idée d'un match amical de football Algérie-France. Ce serait une bonne chose, dit-il, pour conjurer le passé. Le passé, vous le savez, c'était il y a 20 ans, en octobre 2001, ce match France-Algérie qui s'était arrêté prématurément après l'envahissement du terrain au Stade de France par des supporters algériens. Le football, concrètement, sur le terrain, eh bien, c'est la Ligue 1. 4e journée, hier soir, Lille est allée gagner à Ajaccio 3-1. 2 rencontres au programme aujourd'hui. À 17h, Auxerre reçoit Strasbourg. À 21h, ce sera Lens-Rennes. À suivre sur RTL, les Nordistes sont 2e au classement, réalisent un début de championnat canon. Les Bretons, eux, en milieu de tableau, espèrent un 2e succès. Et puis en rugby, eh bien, il y a décidément quelque chose qui ne tourne plus rond chez les Blacks. La Nouvelle-Zélande s'est inclinée pour la première fois de son histoire face à l'Argentine, face au Puma. Score final 25-18, c'est la 6e défaite en 8 matchs pour les All Blacks qui sont donc en plein doute. Il est 1h10. Dans un instant, la recette de l'été. Et ça, c'est véritablement un plat vedette de la saison estivale. Le tartare de thon. Mais pas n'importe lequel, pas n'importe comment. Vous allez vous régaler. À tout de suite.
RTL Midi.
Vincent Parisot,
RTL Midi.
Mais dans 7 minutes, il sera 13h. C'est bien l'heure de passer à table, hein, comme durant tout l'été à la mi-journée.
RTL.
On est sur une recette un peu provençale.
Allez, sel, piment, l'Espelette.
On ajoute de l'huile d'olive.
On a fait une entrée facile, fraîche, d'été.
Les recettes de l'été.
Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors la promesse, on la connaît, c'est une recette estivale de grand chef, garantie et facile à refaire à la maison.
Oui, même pas de cuisson aujourd'hui pour vous dire, parce qu'on va se faire un petit tartare avec du thon rouge, des amandes crues et des cerises. Une recette signée David Toutain, chef 2 étoiles à Paris.
Allez, on vous suit en cuisine Pierre.
Bonjour David Toutain.
Bonjour.
Je vous suis par qu'on commence.
Donc ici on va ouvrir nos amandes fraîches. Donc la petite particularité c'est de pouvoir les fendre en deux, donc on va juste placer notre lame sur la tranche de l'amande, et juste avec un coup de couteau on va pouvoir les ouvrir afin de trouver l'amande qui va juste être fraîche et délicate.
Alors c'est important de prendre des amandes fraîches et pas des amandes qu'on trouve dans le commerce qui sont déjà un peu torréfiées.
Ça n'a rien à voir. Là on va manger un produit qui va être cru. C'est quelque chose d'un peu plus gras, de plus fondant également. Donc j'en compte 4 par personne. On va les ouvrir en deux, ce qui fera 8 demi.
Très bien.
Maintenant, les cerises, c'est un peu plus simple.
Il faut quand même enlever le noyau, j'allais dire.
Soit en dénoyauteur, moi j'aime bien le faire au couteau. Donc on va la couper en 4, on va la tourner et on va extraire le noyau. Même principe, je suis sur 2 cerises, 2 à 3 cerises par personne selon la taille. Ensuite, on a nos amandes fraîches, les cerises sont prêtes. On va prendre le thon. On va juste demander un morceau de thon à notre poissonnier. Il va nous le couper dans un beau filet. On va le couper en cubes d'un demi centimètre par un demi centimètre si on veut être un peu précis. Pas trop trop fin. Par contre, ce qu'on veut, c'est aussi garder cette texture et ce goût en bouche. On va passer à la finition, je dirais, du plat.
Ouais.
Donc on va tout mettre dans ce qu'on appelle nous en cuisine un cul de poule, mais ça peut être un saladier. Oui. On va tout rassembler. Notre thon, les cerises, nos amandes fraîches. Et là, on va juste venir assaisonner. Une huile d'olive.
Qui ça fait briller tout de suite, là. C'est
ah
beau.
Voilà, c'est ça. Ça donne faim.
Ah oui, incroyable.
Cette fleur de sel qui va venir donc forcément assaisonner notre préparation, mais également, j'aime beaucoup ce côté un peu croustillant qui va être là en bouche.
Ah, sous la dent, c'est agréable. Hein.
Et je vais juste déposer quelques gouttes de sauce soja, ou ça peut être un beau vinaigre de xérès, ou un beau vinaigre de balsamique. Après, on va venir faire des petits tas avec.
Donc là, on recouvre complètement notre petit dôme de tartare avec du basilic.
Exactement, on va le cacher. On ne veut plus rien voir. Côté visuel, je trouve ça plutôt très très agréable. Et puis après, gustativement, il va y avoir aussi ces couleurs qui vont être là. Et puis ça va être cette mâche. On va aussi avoir du côté végétal avec la salade. Qui ne va pas être prédominant, mais qui va être juste là pour accompagner la préparation.
On goûte ?
C'est parti.
Oh, c'est bon.
Vous parlez plus.
Ah non. Oh, j'adore avec la cerise. Ouais. Qui vient un peu éclater en bouche.
On peut mettre des fraises à la place. En fin de compte, on a besoin de sucrosité et de texture. Et là, on l'a à travers la cerise. Je trouve ça très très bon.
Et on a les petites amandes qui viennent aussi apporter de la texture.
Ah ouais, c'est ouais.
Super. Merci beaucoup, David Toutain.
Avec grand plaisir, merci.
Belle recette estivale, hein, grâce à David Toutain, chef 2 étoiles à Paris. Pierre Herbulot, vous faites un beau métier.
Vous avez vu?
Oui. L'astuce du jour.
Alors l'astuce, elle est pour ceux qui ont un petit peu de mal avec le poisson cru, Vincent. On va faire exactement la même recette, avec les cerises, avec les amandes et tout, sauf que le thon, on va le faire en gravlax. C'est une technique qui nous vient d'Europe du Nord, des pays scandinaves. En fait, il suffit de recouvrir le poisson d'un temps pour temps de sucre et de sel. Éventuellement, on peut mettre des baies roses ou de l'aneth.
Ouais.
On va mettre notre poisson recouvert de cette préparation au réfrigérateur pendant 48 heures et ça va créer comme une espèce de cuisson finalement sur notre poisson. À la sortie du réfrigérateur, il faut bien le rincer pour pas qu'il soit trop salé ou sucré. Et derrière, on va avoir une texture qui va se rapprocher d'un poisson fumé, un petit peu avec plus de résistance sous la dent. Il est un petit peu cuit, donc tous ceux qui ont des problèmes avec le poisson cru, C'est parfait.
On fait souvent le saumon gravlax.
J'allais dire, on peut le faire avec, avec du thon, voire même avec une jolie truite française. C'est assez fantastique.
Eh bien, merci, on va se régaler. Merci grâce à vous et à vos recettes de l'été, Pierre Herbulot.
Merci.
Et dans un peu plus de deux minutes, il sera 13h. On va accueillir Victor Pourchet pour le rappel de l'info. Et ensuite, vous entrerez dans l'histoire avec Laurent Deutsch. Je vous retrouverai à 18h. Il est 13h. Le rappel des grands titres de l'actualité, Victor Pourchet.
Bonjour Vincent, bonjour à tous. Et d'abord, cette alerte sur la centrale de Zaporijjia en Ukraine. L'opérateur public ukrainien annonce un risque de pulvérisation de substances radioactives. Concrètement, il accuse les Russes d'avoir bombardé le site au cours de la dernière journée, endommageant l'infrastructure. Mais que sont exactement ces possibles pulvérisations ? Réponse de Bernard Laponche, expert en politique de l'énergie, que Léonard Cassette a joint à l'instant pour RTL.
La pulvérisation, ça peut être des cendres ou des poussières qui contiennent des matières radioactives. Et puis, du fait de l'explosion que vous créez par votre bombardement, ça les envoie dans l'environnement. Imaginez un tas de sable chez vous. Et pour des raisons X ou Y, ce tas de sable contient certaines matières radioactives. Elles sont là, elles sont plus ou moins protégées. Et puis, vous avez une explosion là-dessus. Tout votre sable ou vos déchets sont pulvérisés et ça fait des poussières radioactives qui, du coup, dans un certain périmètre, peuvent faire des victimes. C'est des gens qui sont là, y compris des soldats, quoi, par exemple. C'est pas un nuage de Tchernobyl, mais c'est comme un nuage de poussière qui s'étend sur une certaine surface.
Bernard Laponche, expert en politique de l'énergie et membre de l'association Global Chance sur RTL. Un point sur vos conditions de circulation à 13h. François-Xavier Lambert, vous êtes avec nous. Bison futé, prévoyez du rouge dans le sens des retours. On en est où ? Ça bloque beaucoup ?
Le trafic est toujours très fortement perturbé sur l'A7 dans la vallée du Rhône. Près de 70 km d'embouteillage dans le sens Marseille-Lyon. Cela se passe précisément entre Orange et Solce-sur-Rhône. Il faut compter 2h30 pour rallier Lyon. Ralentissement également sur l'A8. Un embouteillage sur près de 12 km entre Genève et Aix-en-Provence à partir de Châteauneuf-le-Rouge. Et puis en remontant vers le nord, évidemment, autre grand axe traditionnellement encombré, l'A10 depuis Bordeaux, 10 km de bouchons en direction de Paris dans le secteur de l'Abenate. La situation s'améliore tout de même sur l'ensemble du réseau après avoir frôlé les 600 km de bouchons cumulés. Bison futé recense désormais 450 km d'embouteillage.
Merci François-Xavier Lambert. Trafic difficile pour Emmanuel Macron en Algérie. Le président s'offre un bain de foule à Oran. Il était attendu dans un lieu culte de la musique raï ce matin, le magasin Disco Maghreb. Accueil festif pour ce dernier des 3 jours de visite officielle pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État doit entériner avec son homologue Abdelmadjid Tebboune un partenariat renouvelé dans une déclaration commune cet après-midi. Et puis votre programme sport avec du foot, suite de la 4e journée de Ligue 1. Au programme aujourd'hui, 2 matchs, Auxerre, Strasbourg à 17h, suivi de Lens, Rennes à 21h. Ce sera à suivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro, 20h, 23h. La météo maintenant, c'est avec vous Claire Delorme.
Eh bien, il se trouve que c'est un temps très calme pour cet après-midi, avec pas mal d'éclaircies qui vont se développer, mais aussi quelques passages nuageux. Attention, nous pourrions avoir encore localement quelques averses vers l'extrême Grand Est, en direction donc de la région PACA, accompagnées donc d'un coup de tonnerre. Et donc pour les températures, elles sont vraiment estivales, entre 21 à 25 degrés vers les bords de Manche, 25 à 29 degrés en général, et tout de même des pointes à plus de 30 degrés encore près de la Méditerranée.
Merci Claire. Les courses, elles sont à Deauville cet après-midi. Attention, le 6 et le 12 sont non partants. Les pronostics de Dominique Cordier. Jouez le 2, le 14, le 5, le 3, l'As, le 8 et le 9. La dernière minute, c'est l'As Moneyman. Il est 13h passé de 3 minutes sur RTL. Tout de suite, vous entrez dans l'histoire avec Laurent Deutsch.